Notes de comptoir. La vie du territoire au travers des cafés-concerts, bars associatifs, guinguettes et micro-lieux. Un magazine proposé par la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne, en partenariat avec SuperMab, le réseau des scènes et musiques actuelles, le collectif Culture Barbare et Radio Boa.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série consacrée aux micro-lieux de diffusion des musiques actuelles en Bretagne, Notes de comptoir. Dans ce nouvel épisode, cap sur l'Ille-et-Vilaine, à Muel, pas très loin de Saint-Marc-le-Grand. Nous partons aujourd'hui à la découverte de l'antre de l'éléphant, un lieu que nous allons explorer à travers les mots de ses acariens, plasticienne, et Vincent Fonf, artiste voyageur, et les sons d'Olivia Morand-Jurado de Timbre FM qui a réalisé ce reportage. Et dans quelques minutes, nous retrouverons Clément Le Goff pour parler de ces micro-lieux qui sont au cœur du festival départemental Le Grand Soufflet, mais aussi de la manière dont le festival tisse des liens entre les cultures. À travers sa programmation, il met en résonance des artistes venus du monde entier, profondément enracinés dans leur territoire, et des artistes locaux pour qui l'ancrage culturel est tout aussi essentiel. Mais avant, on découvre le reportage d'Olivia Morand-Jurado de Timbre FM, votre radio locale basée à Augan, pas très loin de la forêt de Brocéliande. Un reportage réalisé à l'antre de l'éléphant en juin 2024.
Les artistes permanents et créateurs de l'antre de l'éléphant, César Kérien et Vincent Fonf, nous ouvrent ses portes. Waouh ! Alors, ça ressemble à ça, l'antre d'un éléphant ? J'imaginais ça moins cosy. À la convergence des esprits et des histoires des artistes qui s'y retrouvent, des bénévoles qui s'y investissent, des gens de passage qui découvrent et des gens du coin qui redécouvrent ce lieu atypique de Muel en Ille-et-Vilaine, l'antre de l'éléphant se démarque comme un point de croisement.
En fait, finalement, c'est un lieu, les théâtres de patronage, il y en avait dans tous les villages à une époque, dans les années, dans justement, beaucoup villages, beaucoup de villages, il y avait un théâtre de patronage.
Il y en a
un
encore à Gaël,
ici,
il y en a à Fadique.
Ici, beaucoup de gens appellent ce lieu encore aujourd'hui le patro. Voilà, et donc c'est un lieu qui était pour celui-ci en tout cas sous le patronage de l'église, c'était un théâtre paroissial, mais dans lequel plus les années passaient, plus il y a eu effectivement des pièces de théâtre qui étaient plus un petit peu des vaudevilles, du divertissement, petit à petit ça a été ouvert avec des projections de cinéma, le lieu s'est ouvert de plus en plus à la culture en général. Donc l'antre de l'éléphant est un lieu dédié aux arts plastiques et au spectacle vivant. Dans un premier temps, quand on a trouvé cet endroit, ce lieu, on cherchait un nouvel atelier. Donc on est tous les deux plasticiens. Et on a souvent eu un lien avec le spectacle vivant parce qu'on a fait en fait une tournée où on formait un duo. Vincent Peignet et moi, je sculptais en direct des musiciens ou des danseurs. Donc on a parcouru comme ça une dizaine de pays d'Europe et puis on est allé à Montréal et puis au Maroc. Et donc quand on est revenu grosso modo de cette tournée,
qui a duré 7 ans quand même.
Voilà, on s'est installé dans un lieu, dans une ferme, et on a créé un lieu qui s'appelait Lézard à la ferme. J'en parle parce que c'est un préalable à ce lieu ici. Et l'idée dans ce lieu était de s'inspirer du matériel agricole et de notre contexte pour créer. Et donc dans cette ferme, on avait également une large place au spectacle vivant, des concerts ont été organisés, des répétitions publiques, voilà. Et donc quand on est arrivé ici, d'autant plus, ça nous a semblé une évidence de continuer à faire vivre cette scène. Donc l'idée de ce lieu, l'antre de l'éléphant, c'est d'imaginer un lieu de création plus qu'une salle de spectacle. C'est-à-dire que c'est un lieu de résidence, c'est un lieu de, effectivement, d'exposition, mais aussi de création dans le domaine des arts plastiques, de rencontres aussi entre différents domaines artistiques. Voilà. Donc c'est l'idée de co-créer ensemble.
Il y a un côté prise de risque qui nous intéresse, qui veut dire dans la création, il y a toujours une part de prise de risque. On est bien d'accord que le risque est relatif, mais quand on démarre une œuvre, on ne sait jamais vraiment jusqu'où on va aller, comment ça va se passer. Et ben ici, c'est des rencontres entre des musiciens, des danseurs, des plasticiens. Quand je parlais tout à l'heure de Ella qui apprend à dessiner et qui profite des spectacles de danse ou des musiciens pour avoir des sujets à dessiner, mais ça peut être aussi, par exemple, là le dernier concert, il y avait François Combeau, qui est un artiste qui a déjà exposé ici. Et le principe, c'est que l'entrée est gratuite pour les gens qui viennent avec un carnet à croquis et dessiner. Il avait une place où il avait un peu de lumière, où il était confort, où il pouvait travailler tranquille. Et donc, le fait de dessiner le spectacle, c'était assez intéressant. Et même quelque chose, par exemple, que personne n'a vu, sauf moi, c'est que pendant le spectacle de harpe, César, qui fait de la marionnette et qui est marionnettiste, a sorti derrière le public sa marionnette discrètement et a travaillé sa marionnette sur la musique qu'elle écoutait. Et donc, même s'il y avait une représentation, il y avait, même sans que le public le sache, une part de création qui se passait en dehors de ce qui se passait sur la scène. Voilà, en sachant aussi, moi je pars un peu dans tous les sens, mais on a acheté ce lieu et au début, on aimait dire on est propriétaire d'un théâtre. Et finalement, très vite, on s'est aperçu qu'on n'était pas, on l'est sur le papier, mais surtout un théâtre, il était théâtre avant et on espère qu'il le sera après. Donc finalement, on n'est pas propriétaire, on est responsable. On est responsable de ce lieu le temps qu'on est là. Et on verra bien. Donc effectivement, ils ont vu, certaines personnes du troisième âge ont vu des spectacles ici où on participait à des spectacles. On en a parlé de ces vieux spectacles. On a refait vivre cette mémoire du spectacle ici. Ils viennent maintenant voir de nouveaux spectacles avec un autre esprit, on va dire. C'est plus l'église. Et on espère que... voilà. Mais cette notion de propriété, quand on est dans une salle de spectacle, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a eu tant de bénévoles. C'est que les bénévoles, on n'était pas chez nous, on participe à la vie d'un lieu commun.
On a fait un petit événement dans le village, parce que donc théâtre paroissial de 1933. Et donc on a un papy qui est venu avec sa canne, 87 ans, et qui a joué sur cette scène à l'âge de 7 ans. Ah, on va remettre un petit peu.
On parle d'éducation populaire. Nous, c'est vraiment notre mission, je dirais presque première. On a notre création qui est là depuis toujours pour nous deux, mais l'éducation populaire, parce qu'ici, il faut savoir qu'il y a les spectacles qui passent, mais surtout, c'est un lieu avec des salons conviviales où les gens non seulement aiment venir un peu tôt, mais aiment rester un petit peu tard. Donc après le spectacle, c'est un lieu où ça discute, où la buvette, le bar est ouvert, où les gens peuvent parler des spectacles. Et les spectacles qu'on propose nous, pas toujours, mais en général, ça peut être des spectacles qui font réfléchir, qui font causer. On n'aime pas, on trouve ça bizarre. Et moi, j'aime pas. Moi, j'aime. Ah bon, et pourquoi t'as aimé? Pourquoi j'ai pas aimé? Et finalement, éducation populaire, parce qu'on peut ne pas tout aimer, mais il y a quelque chose qui se passe, un échange, quoi. Ouais. C'est prétexte.
Il y a de plus en plus d'habitants qui prennent le risque de venir avec... parfois, quand il y a deux spectacles sur la soirée, quand on va ensuite au Bon Ami, au Café du Village, on peut discuter avec le public qui est venu ici, et on peut avoir par exemple dans un duo de copines une qui va nous dire ah ouais mais moi j'ai préféré telle partie, l'autre va nous dire ah ouais mais enfin c'était quand même un petit peu, comment dire, farfelu, et du coup l'une entraîne l'autre et il y a des découvertes et des rencontres qui se font et ils reviennent tenter voilà. De nouvelles aventures. Ce qu'on aime aussi dans la manière dont l'entrée est gérée, c'est que finalement nos deux coprésidentes, elles travaillent pas dans le domaine du spectacle vivant. Ce sont nos choix personnels avec et très éclectique. Et on, voilà, avec, c'est les choix d'une dizaine de personnes avec une dimension qui peut être surprenante parfois, inattendue. Et c'est vrai qu'on a toutes, il y a une dimension aussi sociale de l'Inde de l'éléphant, parce qu'on intervient dans différents lieux. Par exemple, moi, j'interviens dans un foyer d'accueil médicalisé auprès d'adultes avec des troubles psychiatriques qui viennent visiter et participer à des ateliers ici régulièrement, en plus des interventions, des ateliers qui ont lieu sur place. Donc l'idée, c'est vraiment un lieu ouvert sur le monde en général et vice-versa. De plus en plus. Au départ, on avait peut-être 2-3 personnes du village qui venaient à chaque événement. Et sur certains événements, maintenant, on est à peu près un tiers du public qui vient du village. Et pour nous, c'est vraiment satisfaisant parce qu'on a vraiment envie que ce lieu serve d'abord aux gens du village, que les gens du village se l'approprient. Et ça a vraiment du sens. On aime bien aller chercher le public, avoir vraiment une mixité. En fait, dans le public, pas uniquement des gens qui ont l'habitude de fréquenter des lieux culturels, des salles de spectacle. L'idée d'avoir des gens qui viennent ici et qui viennent voir un spectacle pour la première fois, c'est une idée qui nous plaît bien. Je pense qu'on essaye aussi de sortir aussi des réseaux habituels de gens qui fréquentent déjà les lieux culturels. Alors effectivement, ça peut être en publiant des annonces sur info locale, en parlant tout simplement aux gens par le bouche à oreille, en invitant des gens personnellement qui sont jamais venus ici ou jamais venus voir de spectacle du tout. Après, il y a encore pas mal de gens qu'on n'a jamais vus dans les lieux du village, qu'on n'a jamais vus ici, mais on lâche pas le morceau.
C'est un lieu humain, à l'échelle humaine, parce que ça aussi, on est dans un village à taille humaine, on est dans un lieu, certains arrivent, ils disent « Oh, c'est tout petit, je ne voyais pas ça en photo, je voyais ça plus grand ». Et oui, on est vraiment l'artiste, il y a des artistes qui adorent, parce que quand ils se mettent ici, là, au coin de la scène, ils ont le public sur la mezzanine, ils l'ont à moins de 2 mètres, où le public, il est là, quoi. Et puis bon, c'est une salle à 360 degrés par rapport à, on va dire, la plupart des salles. C'est une salle qui fait, il y a un mur qui est offert au spectacle. Tout le reste, c'est du noir et des sièges pour que le public puisse profiter de ça. Alors qu'ici, le spectacle, il est partout. Et donc, on est vraiment dans une œuvre.
Bah, disons que l'idée, c'est que c'est un lieu dans lequel il y a effectivement tout un décor. Qui est pas, même s'il y a des choses qui évoluent, ce n'est pas un lieu d'exposition, c'est pas une salle d'exposition. C'est un lieu, effectivement, dans lequel il va y avoir une rencontre entre des artistes du spectacle vivant et des plasticiens, des invités parfois, mais il y a aussi quelque chose, une part de permanent, quoi. Et donc, du coup, faut essayer de jouer avec tout ça, entre, effectivement, il y a des lieux ouverts sur de nombreuses résidences, il y a des temps où, effectivement, il se passe autre chose, et les installations continuent à se créer ici. Voilà, donc il y a un côté figé et un côté mouvant.
Après avoir passé un moment dans l'antre de l'éléphant, mes yeux ont du mal à se réhabituer à la brutalité de la lumière du jour. Les lieux comme celui-là vous happent et appellent à l'exploration, à l'inspiration et à passer un moment hors du temps.
« Voilà à l'instant un reportage tourné à l'antre de l'éléphant à Muel en Ille-et-Vilaine par Olivia Morand-Jurado de Timbre FM, votre radio locale du pays d'Augan. Alors pour aller plus loin et montrer l'importance de lieux comme l'antre de l'éléphant, cet ancien théâtre de patronage dans la vie culturelle d'un territoire, eh bien nous accueillons Clément Le Goff, programmateur du festival Le Grand Soufflet à Rennes et sur tout le département de l'Ille-et-Vilaine. Bonjour Clément.
Bonjour.
Tout d'abord, comment réagissez-vous eh bien, au reportage qu'on vient d'écouter ?
C'est toujours l'importance, moi je trouve, de ces lieux à dimension humaine. On a surtout en ville une habitude à avoir des lieux de plus en plus grands et où la circulation des publics est énorme et ce n'est pas forcément là où les gens se rencontrent. Et du coup... La dimension de la rencontre entre les publics, elle est hyper importante. Et je pense que l'antre de l'éléphant en est un bel exemple.
Alors, Le Grand Soufflet est un festival historique hein, en Haute-Bretagne, né autour de l'accordéon d'Étienne Grandjean, ouvert sur le monde à travers sa programmation artistique, où se mêlent plusieurs formes hein, de spectacles vivants, concerts, danses, projections. Tout ça sur l'ensemble du département Ille-et-Vilaine, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, cet ancrage territorial et cette synergie voilà, que le festival a avec les différents lieux qui existent sur le territoire. Si on revient sur l'antre de l'éléphant, qui a été un partenaire du festival, un lieu voilà, axé sur le théâtre, les arts plastiques, la musique aussi. Quel rôle jouent voilà, des lieux comme l'antre de l'éléphant dans l'ancrage d'un festival comme Le Grand Soufflet ?
Le Grand Soufflet, c'est un festival, comme vous le disiez, départemental. Et la caractéristique de ce festival, c'est qu'on a des lieux de production de spectacles extrêmement différents. Ça va de centres culturels à des concerts chez l'habitant. Et du coup, ça, c'est vrai qu'au festival, on est très attaché à ça, d'avoir une diversité de lieux. Moi, j'aime beaucoup, à titre personnel, les concerts chez l'habitant pour ce rapport de proximité entre l'artiste et son public, d'être sur des jauges à 50, 60 personnes. C'est souvent des moments d'expérience assez forts, tant pour le public que pour les artistes. Et des lieux culturels qu'on appelle tiers-lieux aujourd'hui, hein, qui portent justement des capacités, certes, d'accueil de musique, mais de conférences, de cafés-débats, vraiment des lieux de vie, ça génère dans les petits territoires du lien social, de l'envie aussi de dynamiser le territoire sur lequel on habite. Je pense que c'est vraiment essentiel dans le maillage des équipements culturels qu'on peut trouver sur un département comme l'Ille-et-Vilaine, d'avoir justement certes des grands lieux en centre-ville, mais aussi des lieux à taille humaine dans les communes et que tout ne circule pas toujours au même endroit, mais que sur chaque territoire, il y ait un accès à la culture. C'est vraiment ce qu'on porte au festival, c'est d'accompagner tant des cafés associatifs que des gens qui ont des volontés de faire du concert chez eux, des associations, pour que il y ait de la culture et de la rencontre un peu partout sur le territoire.
Comment vous les accompagnez, Clément ?
On les accompagne sur une ligne artistique qui est celle du festival, donc autour de l'accordéon et aujourd'hui plus autour des musiques du monde. La spécificité artistique aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir des artistes qui viennent d'un territoire et qui ont quelque chose à en dire. Et souvent, ces territoires sont des territoires culturellement assez minoritaires, donc ça peut s'exprimer par la langue, par les instruments, par plein de choses. Et du coup, le fait de faire venir rencontrer des artistes qui ont quelque chose à dire de leur territoire sur un territoire qui lui-même a une culture forte, ici on est en Haute-Bretagne, la culture du pays gallo, ça crée toujours une rencontre assez géniale. Donc on les accompagne sur cet aspect-là, l'aspect artistique. Et puis en termes de communication aussi, comment toucher de nouveaux publics, des fois sur leur propre commune, quoi. C'est le Grand Soufflet, c'est un nom. Donc les gens, des fois, viennent se laisser porter parce que c'est le Grand Soufflet, ils vont pousser la porte de la salle de concert à côté de chez eux, ce qu'ils ne feraient pas forcément si ce n'était pas un festival identifié au niveau départemental.
Voilà, c'est à travers ce type de partenariat qu'on peut attirer de nouveaux publics, Clément.
Oui, c'est ça, c'est le sens hein, du festival, c'est que on a une diversité de propositions artistiques qui font que bah, ce festival est assez regardé, c'est plus de 20 000 personnes, 20 000 spectateurs sur le département, donc c'est un festival qui est relativement regardé, et ça aide des communes aussi à remplir leurs salles, à faire découvrir des projets innovants, rares, que si le festival n'était pas là, ils auraient peut-être plus de mal à le faire exister. Je ne dis pas qu'ils n'y arriveraient pas, parce qu'on a quand même un maillage culturel super, on a beaucoup de chance sur le département, mais je pense que le festival, par sa ligne esthétique et sa communication, permet voilà, d'ouvrir les salles de concert encore plus.
Qui dit ancrage territorial dit aussi artistes locaux, et ils sont nombreux en Bretagne. Alors ces endroits comme l'antre de l'éléphant favorisent aussi l'émergence artistique, Clément.
Bien sûr, je pense que chaque strate de lieu de diffusion a un rôle à jouer. Et il n'y a pas de lieu moins important que d'autres, et chacun, à son échelle, accompagne le développement des artistes. Et c'est d'ailleurs très, très important qu'à chaque strate de développement d'une carrière artistique, il y ait des acteurs culturels qui soient en capacité de les accueillir. Nous, c'est pour le coup, c'est un vrai point de vigilance au Grand Soufflet de proposer tel ou tel artiste à tel ou tel lieu, parce que c'est le moment pour l'artiste de jouer à cet endroit-là. C'est-à-dire que au moment où il est rendu sa carrière, au moment où on peut l'accompagner, on ne va pas forcément mettre cet artiste-là au chapiteau Tabord où il va avoir 1000 places à remplir et peut-être pas en capacité de le faire. Mais par contre, il va donner un concert complètement génial devant 60 personnes. Et moi, j'y apporte tout autant d'intérêt à des concerts magnifiques des fois que je vois en médiathèque, parce que le moment de développement de carrière de l'artiste, c'est à cet endroit-là, mais les concerts sont tout aussi beaux, voire plus beaux que la grosse tête d'affiche du festival qui va remplir 1000 places et qui va donner autre chose. C'est vraiment deux expériences différentes, et je hiérarchise pas la qualité du travail, c'est juste des moments de vie artistique différentes et des envies artistiques différentes. Il y a des artistes qui, toute leur vie, auront un choix d'être sur du petit format, sur de la proximité, qui chercheront ça dans leur pièce artistique. Il faut que ces artistes-là aient la liberté de pouvoir s'exprimer, parce qu'il y a souvent des choses magnifiques à voir.
Est-ce qu'au-delà du festival donc, qui se déroule au mois d'octobre, est-ce que vous travaillez avec ces lieux tout au long de l'année pour des actions culturelles, par exemple ?
Alors, avec ces lieux-là en particulier, non. On a des projets de résidence à l'année, par contre, qui sont assez chouettes avec des artistes. On a deux projets de résidence sur le département. On a un projet qui s'appelle Portrait croisé, avec Morgan Lab et Claire Laurent, qui fait se rencontrer des EHPAD et des collèges à Saint-Georges-de-Reintembault, donc dans le pays de Fougères, et dans le quartier prioritaire du Blône à Rennes. Et donc, c'est deux collèges qui se rencontrent, qui travaillent, qui écrivent. Donc ça, c'est un projet qu'on mène sur 3 ans. Donc c'est pareil, pour que les territoires se rencontrent et se croisent. Et puis autrement, on travaille avec l'accordiste Titouan Gauthier sur un projet autour de la musique et du handicap, avec la DAPI 35. Et donc, voilà, c'est pareil, c'est un projet d'écriture artistique dans ces lieux, dans les IME et dans les lieux d'accueil de personnes handicapées. Donc ça, c'est nos projets à l'année, où on va justement aller chercher d'autres publics, des gens qui, voilà, d'aller dans les structures soit de santé, soit d'éducation, pour mener un projet à l'année. Et c'est le projet de la fabrique du Grand Soufflet à l'année.
Clément, quelles sont les spécificités d'un territoire comme Rennes Métropole, le département de l'Ille-et-Vilaine, voilà, est-ce qu'il favorise le collectif?
On est sur un territoire où on aime danser. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé remarquer. On est sur un territoire où le monde du bal fonctionne extrêmement bien. Et je trouve que c'est un beau symbole de cette notion collective et de l'envie de faire ensemble. Au festival, on fait plusieurs bals et c'est toujours hyper chouette de voir les gens se prendre par la main et danser ensemble. Donc, c'est une spécificité au-delà du département, je pense que c'est une spécificité de la Bretagne, d'avoir un lien fort à la vie collective. On voit bien que la Bretagne est une terre de festivals, est une terre de fest-noz, d'une culture populaire assez, assez riche. Et en tout cas, à notre petite échelle, on essaie de maintenir tout ça.
Et quels sont les défis, on va dire, peut-être spécifiques que vous avez, vous, au sein du Grand Soufflet, sur un territoire comme l'Ille-et-Vilaine, voilà, peut-être au niveau de l'organisation, trouver les lieux, où c'est des choses qui sont déjà bien établies et aujourd'hui c'est simple.
Bon, c'est jamais simple, mais le festival va doucement sur ses 30 ans, donc âge de maturité. Donc c'est vrai que bon, y a quand même pas mal de partenaires sur le territoire, on est bien identifié, bien implanté. Les enjeux qu'on a devant nous, c'est un peu cette notion de cette lettre de Pete Seeger, ne nous laissons pas Coca coloniser. Et c'est un peu notre ligne de conduite, c'est-à-dire laissons aussi la possibilité à des formats culturels un peu underground, un peu de travers qui arrivent comme ça, laissons-leur des espaces pour exister. Et je pense qu'aujourd'hui, on est confronté à une standardisation de beaucoup de modèles culturels, de modèles artistiques. Et il y a quand même toute une scène qui, elle, est très, très dynamique à faire des choses très différentes, et je pense que le Grand Soufflet a à cœur, avec justement cette typicité de lieu qu'on décrivait tout à l'heure, de les accueillir et de leur donner une belle tribune sur le département. Donc c'est toujours notre point de vigilance, c'est de garder toujours une singularité, une originalité dans les propositions artistiques.
Merci beaucoup Clément Le Goff d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le programmateur du Grand Soufflet, un festival qui est sur le département d'Ille-et-Vilaine. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
C'est la fin de cet épisode, alors pourquoi pas se faire une petite virée dans l'un de ces lieux près de chez vous pour les soutenir et continuer de vibrer au son de ces artistes et groupes programmés. Si ce n'est pas possible, là tout de suite, vous pouvez toujours réécouter cet épisode consacré à l'antre de l'éléphant et continuer votre périple de découverte des micro-lieux de diffusion des musiques actuelles en Bretagne sur corlab.org. À bientôt pour un nouvel épisode.
C'était Notes de comptoir, un magazine produit par la Corlab et par Radio Boa, la radio régionale associative bretonne en DAB+, avec le soutien du Centre national de la musique.